J'étais assez ému quand j'ai appris que Jack London avait voyagé à bord d'un bateau qui s'appelait le Snark.
Jean-Marie Le Clésio.
Il avait parcouru le Pacifique et je me souviens d'un livre que j'avais vu dans une bibliothèque. Il y avait une photographie qui montrait Jack London assis sur une plage et avec à côté de lui un de ses matelots qui tenait victorieusement dans sa main une pince tenant une des molaires de Jack London.
Ça peut pas faire de mal.
Il y avait le commentaire en dessous, ma première extraction. On lui avait arraché une dent sur une plage du Vanuatu. Et ça, c'est vraiment l'aventure, c'est-à-dire qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de dentiste, loin de tout, et être obligé de faire face à une situation comme une rage de dent, et avec un certain humour, en s'en servir comme une marque dans le voyage que l'on fait.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Et vous, jeune écrivain, avez-vous quelque chose à dire? Ou bien croyez-vous simplement que vous avez quelque chose à dire? Si vos pensées ont de la valeur, vos écrits en auront aussi. Mais si votre expression est faible, c'est que votre pensée est faible. Si elle est étriquée, c'est parce que vous êtes étriqué. Dans ce cas, comment pouvez-vous faire naître l'ordre du chaos? Comment pouvez-vous avoir quelque chose de nouveau à proposer au monde blasé? Que connaissez-vous du monde, de ce qui se trouve sous cette surface bouillonnante? Vous devez étudier. Vous devez en arriver à lire avec compréhension ce qui s'inscrit sur le visage de la vie. Vous devez connaître l'esprit qui pousse à l'action les individus et les peuples, qui fait naître les grandes idées. Vous devez poser la main sur le pouls intérieur des choses. Que connaissez-vous de l'histoire, de la biologie, de la morale et des mille et une branches de la connaissance? Mais c'est un travail effrayant, protesterez-vous. Je n'ai pas le temps. D'autres n'ont pas été rebutés par l'immensité de la tâche. Shakespeare, Goethe, Balzac, chacun d'eux a tiré de lui-même sa propre philosophie de travail. Ne vous dérobez pas. Lisez ce qu'il y a de meilleur, et seulement ce qu'il y a de meilleur. Ne flânez pas en sollicitant l'inspiration. Précipitez-vous à sa poursuite avec un gourdin. Ayez un carnet de notes. Voyagez avec lui. Mangez avec lui. Dormez avec lui. Notez-y tout ce qui vous vient à l'esprit. Et travaillez. Écrivez ce mot en majuscule. Travail. Travail. Tout le temps. Découvrez cette terre, cet univers et l'esprit qui scintille à travers la force et la matière. Et par tout cela, je veux signifier que le travail est une philosophie de la vie. Les trois grands principes sont bonne santé, travail et une philosophie de la vie. Je pourrais en ajouter une quatrième, la sincérité. Sans cette dernière, les trois précédents ne servent à rien. Avec elle seulement, vous pourrez accéder à la grandeur et siéger parmi les géants. Ces conseils à un jeune écrivain rédigés en 1903 sont ceux d'un célèbre romancier américain qui connaît alors son premier succès littéraire. Il s'agit de Jack London, qui publie cette année-là son plus beau récit d'aventure, « L'appel de la forêt », que j'ai eu le plaisir de lire la semaine dernière. Né en 1876 d'un père qui ne l'a jamais reconnu, élevé dans les quartiers pauvres de San Francisco, Jack London a dû travailler très tôt pour survivre. Enfant, il fut garçon de ferme, crieur de journaux, ouvrier à la chaîne. Puis adolescent, nourri de ses lectures de Kipling, Melville, Stevenson, il part pour l'aventure. Comme pirate, d'abord, sillonnant la baie de Sacramento, puis comme marin pour une expédition de chasse aux phoques dans l'Arctique. À son retour en 1893, à l'âge de 17 ans, il publie une première nouvelle inspirée de son expédition maritime qui lui rapporte $25. Une fortune pour le jeune homme alors employé comme pelleteur de charbon et payé $30 par mois. Il décide de ne plus se soumettre à la violence du travail par les muscles, mais de vivre de son cerveau. Dès lors, il s'impose une tâche qu'il respectera toute sa vie, écrire 1000 mots par jour. Autodidacte, il se forme aux grands penseurs de son époque, Darwin, Marx, et milite pour la cause socialiste. Il décroche son entrée à l'université de Berkeley, mais quitte très vite ce milieu confiné. L'homme d'action a besoin de grands horizons. En 1897, à l'âge de 21 ans, il part pour la ruée vers l'or dans le Grand Nord et en revient bredouille. Qu'importe, l'aventurier rêve de reprendre la mer. Ce soir, pour cette seconde émission consacrée à Jack London, laissons-nous guider par son tempérament de pionnier et suivons l'écrivain engagé qui se donne pour ambition, je cite, de se consacrer au peuple du monde. Conjuguant son talent pour l'écriture et son goût pour les voyages, Jack London se lance dans une nouvelle aventure, le journalisme. En 1902, l'écrivain, connu pour ses idées politiques, se voit proposer une mission de reporter, partir en Afrique du Sud afin de couvrir la fin de la guerre des Boers et dénoncer la politique coloniale de la Grande-Bretagne. En juillet, il fait escale à Londres pour rencontrer les chefs militaires de retour d'Afrique, mais sa mission est soudain annulée. Jack London décide de rester dans la capitale britannique pour enquêter sur les quartiers pauvres de l'est de la ville. Troquant son costume de marin contre de vieux vêtements, il côtoie les miséreux et les sans-abri pendant plus d'un mois. Début août, il assiste aux fêtes du couronnement du roi Édouard VII. Pionnier, Jack London voyage avec l'un des tout premiers appareils photo portatifs de l'époque. Ces clichés témoignent du contraste entre les conditions de vie des pauvres et le spectacle de la richesse. L'année suivante, quelques mois après l'appel de la forêt, il publie ce texte engagé, Le peuple de l'abîme, illustré par ses propres photographies, où il dénonce la misère comme effet de la guerre industrielle. Ce texte marque les débuts d'un genre qui va se développer tout au long du XXe siècle, l'enquête de terrain. Voici ce premier reportage sur la jungle des villes. Hier, tard dans la nuit, j'ai descendu Commercial Street de Spitalfield à Whitechapel, et plus loin vers le sud jusqu'au dock. Il est difficile de rapporter le dixième de ce que j'ai vu. L'essentiel est impossible à raconter. Mais de manière générale, je peux dire que j'ai vu un spectacle cauchemardesque. Une épouvantable vase humaine grouillant sur les trottoirs, une pagaille obscène et indicible qui éclipsait l'horreur nocturne de Piccadilly. Il y avait là toute une ménagerie de bipèdes vêtus qui ressemblaient vaguement à des humains et beaucoup plus à des bêtes. Parfois, entre deux policiers, ces mâles me jetaient des regards perçants, affamés, en loups de caniveaux qu'ils étaient, et j'avais peur de leurs mains nues. Ils me faisaient penser à des gorilles. Ils avaient des corps ramassés, trapus et déformés. Ils donnaient à voir un état rudimentaire de l'économie naturelle tel qu'il a dû exister chez les hommes des cavernes. C'est une nouvelle espèce, une race de sauvages des villes. Les taudis sont leur jungle et c'est là qu'ils vivent et chassent. Les gens précieux et délicats habitués aux ors des théâtres et aux palaces du West End ne voient pas ces créatures, ne pensent même pas qu'elles puissent exister. Mais elles sont là, vivantes, bien vivantes dans leur jungle. Il y avait aussi ces visages et ces silhouettes étranges et bizarres, ces monstres difformes qui me frôlaient de tous côtés, des poivreaux d'une laideur inconcevable, la lie de la société, les carcasses ambulantes, les morts vivants, des femmes ravagées par la maladie et l'alcool, au point de se déshonorer pour moins de 2 pence, et des hommes, vêtus de guenilles invraisemblables, auxquels le froid et les privations avaient ôté tout semblant de virilité, le visage constamment tordu de douleur, traînant des pieds comme des singes, mourant un peu plus à chaque pas et à chaque souffle. Et puis il y avait des jeunes filles, de 18 ou 20 ans, au corps svelte et au visage encore préservé des difformités et des bouffissures, qui avaient touché directement le fond de l'abîme. Je me souviens aussi d'un garçon de 14 ans et d'un autre de 6 ou 7 ans, le teint blafard et maladif, sans abri, assis tous les deux sur le trottoir crasseux, le dos contre une grille, à regarder tout cela. Les inaptes et les inutiles. L'industrie ne les réclame pas. Il n'y a aucun secteur où l'on manque d'hommes et de femmes. Les dockers se pressent à l'entrée et s'éloignent en pestant quand le contremaître ne les appelle pas. Les mécaniciens qui ont du travail versent 6 shillings par semaine à leurs camarades qui n'en trouvent pas. Des femmes en très grand nombre se retrouvent à gagner 10 pence en travaillant 14 heures par jour pour des ateliers de misère. Représentez-vous une vieille femme, éreintée et mourante, qui fabrique des boîtes d'allumettes pour faire vivre 4 enfants. Tous les jours, dimanche compris, elle travaille 14 heures. Elle fabrique 7 grosses boîtes par jour, qui lui rapportent 31 cents. À raison de 98 heures de travail par semaine, elle fabrique 7066 boîtes d'allumettes et gagne 2,20 cents, dont il faut déduire 75 cents de loyer hebdomadaire. Et la conclusion dramatique de tout cela, c'est celle qu'a connue la femme dont la police a retrouvé le corps ce matin sur le seuil d'une maison de Dorset Street à Whitechapel. Sans toit, sans abri, malade, seule à sa dernière heure, elle était morte de froid pendant la nuit. Elle avait 62 ans et c'était une marchande d'allumettes. Elle est morte comme une bête sauvage. Voilà où mène Lee Stand. Alfred Freeman sombre dans des eaux boueuses parce qu'il perd son travail. Helen Hughes Hunt préfère le canal à l'asile de pauvres. Franck Cavillin tranche la gorge de sa femme et de ses enfants parce qu'il n'arrive pas à avoir assez de travail pour les nourrir et les loger. Les inaptes et les inutiles, les misérables, les méprisés et les oubliés, mourant dans le capharnaüm social. La progéniture de la prostitution des hommes, des femmes et des enfants, de la chair et du sang, de l'intelligence et de l'esprit, en somme, la prostitution du travail. Si c'est ce que la civilisation a de mieux à offrir à l'humanité, alors va pour la sauvagerie nue et glapissante. Il vaut mieux être un peuple des contrées sauvages et désertiques, des grottes et des cavernes, que d'être un peuple de la machine et de l'abîme. On ne peut s'y tromper. La civilisation a multiplié au centuple les capacités de production de l'homme. La question devient alors, pourquoi la civilisation n'a-t-elle pas amélioré le sort de l'homme moyen ? Aujourd'hui, en l'an de grâce 1902, au cœur de l'empire le plus grand, le plus riche, le plus puissant que le monde ait jamais connu, les hommes appartenant à la civilisation vivent dans des conditions pires que celles des bêtes, en étant moins bien nourris, vêtus et armés contre les éléments que le sauvage inuit sous son climat glacial, qui vit toujours comme il vivait à l'âge de pierre, il y a 10 000 ans.
On ne comprendra rien à Jack London si on ne comprend pas d'abord qu'il est né pauvre.
Michel Lebris.
Et Jack London pourrait dire « je hais les pauvres ». Pourquoi ? Parce qu'il en était un. Et quand il parle d'animaux humains, lorsqu'il écrit son livre sur les chômeurs et les sans-logis de Londres, quand il est décrit comme des animaux, on comprend bien que ce n'est pas un livre de compassion qu'il est allé écrire, ce n'est pas les Restaurants du cœur qui l'occupent à ce moment-là, c'est qu'il est pris dans cette contradiction, tout simplement, c'est qu'il les hait, ce sont pour lui des déchets humains, s'ils sont comme ça, c'est de leur faute, ils sont racistes, violents, voleurs, égoïstes, etc. Il dit « je le sais, puisque j'en suis un ». Et en même temps, il s'en veut terriblement, et il dit « mais à chaque fois que des pauvres, quelque part, se révoltent, je suis à leur côté, évidemment, parce que ce sont les seuls, parce que broyés par la machine sociale, ce sont les seuls qui peuvent la casser, et je suis forcément à leur côté, puisque je suis un pauvre ».
Pas né pour perdre nos rivières, nos forêts. On n'est pas né pour perdre nos truelles, nos métiers. On n'est pas né pour perdre nos malades, nos soignants. On n'est pas né pour perdre nos amis, nos enfants. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt se rassembler. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt se ressembler. On n'est pas né pour perdre nos prophètes, nos conteurs. On n'est pas né pour perdre nos histoires, nos douleurs. On n'est pas né pour perdre nos droits et nos partages. On n'est pas né pour perdre nos semences, nos potages. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt tout rassembler. Sous un petit coin de ciel bleu, comptez sur nous sans se compter. Sa tenue civile, la civilisation est plus pauvre que moi, même si mes rêves s'usent. Dans son génie civil, La civilisation n'a plus de pont de voie pour déjouer les ruses. Sous nos droits démodés, quand la mode se démode, quand l'ancien journaliste n'est plus qu'un médialiste, formaté, déformé, on dérègle des modes. L'homme qui fut naguère, humain pas humaniste, humain pas humaniste. On n'est pas né pour perdre nos victoires, nos défaites. On n'est pas né pour perdre nos espoirs et nos fêtes. On n'est pas né pour perdre nos étranges étrangers. On n'est pas né pour perdre nos vieux noms d'immigrés. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt se rassembler. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt se ressembler. Sous un petit coin de ciel bleu, faudra bientôt tout rassembler. Sous un petit coin de ciel bleu, comptez sur nous sans se compter. La 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 la.
Correspondant de guerre, Jack London connaît bientôt ses premiers déboires. 2 ans après Londres, l'écrivain part à l'autre bout du monde, en Corée, couvrir la guerre entre la Russie et le Japon. L'auteur a négocié une série d'articles avec l'un des plus influents patrons de presse de l'époque, William Randolph Hearst, qui plus tard servira de modèle au personnage de Citizen Kane dans le film d'Orson Welles. Mais revenons au début de l'année 1904. Le conflit attire de nombreux correspondants internationaux car c'est la première fois qu'un peuple asiatique affronte des Occidentaux. Mais assignés à résidence à Tokyo, les journalistes étrangers sont tenus à l'écart. Jack London part clandestinement à bord d'une jonque où il affronte le froid et la tempête. Puis il apprend à monter à cheval et parcourt 400 km sur les routes boueuses. Son périple prend fin à quelques kilomètres du front, au nord de Pyongyang, où il est arrêté. Il est cantonné au petit village de Weiju, à la frontière de la Chine, où il rejoint d'autres journalistes. Son séjour se soldera par un scandale. Pour avoir frappé le valet d'un officier qui tentait de voler ses affaires, Jack London est menacé de la cour martiale. Il est sauvé par l'intervention personnelle du président des États-Unis, Theodore Roosevelt, et sera expulsé du Japon. Voici ce qu'il rapporte de cette étrange bataille invisible dont il dira plus tard « J'étais parti dans cette guerre en espérant vivre quelque chose de fort. Tout ce que j'ai éprouvé, c'est de l'indignation et de l'agacement. » Quand l'aurore perça à l'est, le noir du ciel se stratifia d'encre et d'argent. À 5 heures, des fusils se mirent à cracher sur notre gauche et vers 6 heures, nous pouvions voir distinctement les silhouettes noires des hommes qui apparaissaient et disparaissaient parmi les rangées de petits saules verts à la surface blanche du sable de l'île de Ranchi. C'était la bataille. Le lit d'un fleuve, le bruit continuel mais irrégulier des coups de feu tirés sur un front de plusieurs kilomètres, quelques ombres furtives, de la fumée. C'était tout. On ne voyait pas les Russes. On ne voyait pas d'où l'on tirait. Cela semblait être, autant que l'on pouvait en voir à l'œil nu ou aux jumelles, une bataille de fantômes. Il est vrai qu'il y avait le bruit des fusils. Mais d'où venait-il? On savait seulement que quelque part au milieu du fleuve venait une sorte de crépitement. Plus bas, le long du Yalu, venait le bruit sourd des gros canons de campagne. La fusillade à droite mourut progressivement. La fusillade à gauche redoubla. Bang ! Soudain, quelque part devant nous, on avait tiré au canon. Aussitôt, une dizaine de jumelles fouillèrent le paysage. Une pièce d'artillerie de campagne, déclara-t-on. Mais où se trouvait-elle ? Bang ! Les jumelles se dirigeaient partout en vain. Encore bang ! Et encore une fois, toujours rien. Enfin, une paire de jumelles réussit à apercevoir l'éclair d'un coup de feu en face de nous sur l'arête de la colline du Tigre, un promontoire rocheux qui avance sur la rive mandchoue du fleuve. Pendant 50 minutes, le canon de la colline du Tigre joua son rôle, Puis il fut retiré. La fusillade à gauche cessa. Il n'y avait plus de bruit. Le vent de l'ouest soufflait, le soleil montait, et au milieu du silence, un escadron de Cosaques, des points noirs sur le sable, apparut enfin derrière le pied de la colline du Tigre. Nous nous attendions à voir le feu reprendre, mais le silence ne fut pas rompu. Les réserves jusqu'ici cachées rentraient à Ouidjou. Le combat, l'escarmouche, la bataille, quel que soit le nom qu'on lui donne, était terminé. Nous avions perdu de vue l'escadron des Cosaques. Les correspondants partirent fatigués, ayant faim, pour leur quartier et leur déjeuner. Suivirent de longues heures de pause. Et l'un de nous envoya son domestique au camp pour chercher un appareil photo. L'eau de la théière bouillait, les selles étaient par terre et les chevaux paissaient. Lorsque tout à coup, vers la fin de l'après-midi, le sifflement des obus reprit. Ils explosaient dans l'air au-dessus de Ouidjou. Ils explosaient dans les maisons de Ouidjou. Ils explosaient au-delà de Ouidjou. Ils explosaient parmi les réserves au bas de la colline, à nos pieds, et ils explosaient au milieu d'une file d'animaux de bas. Une maison prit feu. Mais ce fut vraiment tout. Les combats de ce jour étaient finis. Le vent de l'ouest soufflait plus doucement, et le soleil déclinait quand nous descendîmes en ville, vers la maison en flammes. La file d'animaux de bas avait été reconstituée et avait repris sa marche lente vers le bord du fleuve. Une colonne de brancardiers de la Croix-Rouge chargée d'hommes blessés nous croisa dans une rue étroite. Je sortis de Ouidjou par la route pleine de monde. Le long des fossés, je vis des morts et des blessés japonais et je constatai que j'étais ému par les horreurs de la guerre. Et maintenant, prêtez-moi attention. Pendant des mois, j'avais fait route avec des soldats asiatiques. Je m'étais accoutumé à leur peuple, à leur visage, à leur peau jaune et brune. Mais ce soir-là, je fus plus triste que je ne l'avais jamais été. En route, je vis un chariot tiré par des mulets, accompagné par des soldats japonais. C'était la grise tombée du jour. Le chariot était chargé de gris, de couvertures grises, de vestes grises, de manteaux gris. Des deux côtés, sortant de ce monticule de gris, se dressaient des baïonnettes de fusils russes. Sur le sommet du gris, on voyait une tête couverte de cheveux, comme les miens, et un front blanc. Le reste du visage était caché, mais à l'arrière dépassait un pied et une jambe nue. C'était la jambe d'un homme qui avait mesuré presque 1m80, un grand gaillard comme moi. Le pied nu montait et descendait au rythme du chariot, battant sans cesse une mesure monotone. À côté, des soldats creusaient des fosses. Un peu rapide peut-être, mais les morts étaient morts. Ils n'avaient pas à gêner la marche de la guerre qui se déroulait par la route de Ouidjou, encombrée par l'infanterie, la cavalerie, la Croix-Rouge, le génie, les chevaux, les bœufs et les coulisses. Et je ne sais pas pourquoi, plus tard dans la nuit, je me suis mis à repenser aux pieds blancs qui battaient la mesure sur le chariot. De retour à San Francisco, Jack London se bat sur d'autres fronts. À peine revenu de Corée, l'écrivain fait face à un autre conflit, d'ordre conjugal. Sa femme, Bessie, mère de ses deux filles, demande le divorce pour abandon de domicile. L'auteur, célèbre depuis la publication de L'Appel de la forêt un an auparavant, devient la cible de la presse à scandale. Parallèlement, il continue à militer au sein du Parti socialiste auquel il adhère depuis 1896. Enfant des quartiers pauvres de San Francisco, il est surnommé « The Socialist Boy » lors de ses premières harangues dans les rues. À deux reprises, Jack London se présente à la mairie d'Oakland. Mais s'il perd les élections municipales, l'écrivain développe ses idées politiques grâce à une tournée de conférences qu'il donne dans de prestigieuses universités américaines, Yale, Harvard, Columbia. Nous sommes en 1905. Ému par le souvenir de la défaite de la Russie l'année précédente, l'écrivain s'enthousiasme pour les débuts de la révolution russe. Ses articles engagés lui vaudront l'admiration de Lénine qui, sur son lit de mort, demande qu'on lui lise les œuvres de Jack London. Voici l'un de ses articles intitulé « Révolution », où il apporte son soutien à la cause. Ils s'appellent camarades, ces hommes. Camarades de la révolution socialiste. Et ce mot n'est pas vide. Il n'est pas exempt de signification fait pour être prononcé du bout des lèvres. Il lie ensemble les hommes pour en faire des frères. Comme des hommes doivent être unis quand ils se tiennent au coude à coude sous la bannière rouge de la révolte. Cette bannière rouge symbolise la fraternité entre les hommes et non la destruction par le feu à laquelle, dans l'esprit du bourgeois terrifié, elle s'associe simultanément. La camaraderie des révolutionnaires est vivante et réchauffante. Elle traverse les limites géographiques, l'emporte sur les préjugés des peuples. L'autre jour encore, lorsque le Japon et la Russie se sont sautés à la gorge, les révolutionnaires du Japon ont adressé le message suivant aux Russes. « Chers camarades, votre gouvernement et le nôtre viennent de se lancer dans la guerre pour satisfaire leur tendance impérialiste. Mais pour nous, socialistes, il n'y a pas de frontières, de race, de pays, ni de nationalité. Nous sommes camarades, frères et sœurs, et nous n'avons pas de raison de nous battre. » En janvier 1905, d'un bout à l'autre des États-Unis, les socialistes ont tenu des meetings de masse pour exprimer leur sympathie à l'égard de leurs camarades en lutte, les révolutionnaires de Russie. Voilà une démonstration frappante de la solidarité internationale dans cette révolution mondiale. Quels que puissent être les résultats immédiats de l'actuelle révolte en Russie, la propagande dans ce pays en a reçu une impulsion qui n'a pas de parallèle dans l'histoire des guerres de classe moderne. La bataille héroïque pour la liberté est menée presque exclusivement par la classe ouvrière russe sous la direction intellectuelle des socialistes russes. Ce qui démontre une fois de plus le fait que les travailleurs sont devenus l'avant-garde de tous les mouvements de libération des temps modernes.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small crime. I got no excuse. Is that all right? Yeah. I took my gun away. Is that all right? Yeah. Is that all right? Yeah. If you don't shoot it, how am I supposed to hold it? Is that all right? Yeah. I took my gun away. Is that all right? Yeah. Is that all right? Yeah. Is that all right with you?
Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of space to be cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime. I got no excuse. Is that all right? Yeah.
I took my gun away.
Is that all
it's
right?
A load.
Yeah.
Is that all right? Yeah. If you don't shoot it,
is
how am I supposed
right?
to hold
yeah.
it? Is that all right? Yeah. I keep my gun away.
Is that
when
all
it's
right?
A load.
Yeah.
Is that all right? Yeah. Is that all right with you?
Is that all right? Yeah.
Jack London est témoin d'un drame qui le bouleverse. À la fin de l'année 1905, la situation personnelle de l'écrivain s'apaise enfin. Le lendemain de son divorce, il épouse celle qui fut d'abord sa secrétaire, Charmian, et qui sera désormais sa muse, sa femme camarade. Il s'installe dans un ranch à la campagne, un vaste domaine appelé la Vallée de la Lune. Partageant le même goût de l'aventure, il projette de partir en croisière sur un yacht et faire le tour du monde pendant 7 ans. Jack London s'endette et hypothèque leur maison pour faire construire le bateau de ses rêves. Mais leurs plans sont bouleversés par une catastrophe. Le 18 avril 1906, un tremblement de terre détruit la quasi-totalité de la ville de San Francisco. L'écrivain se rend immédiatement sur place et prend de nombreuses photographies. Voici le reportage qu'il publie le 5 mai, illustré par ses propres clichés. L'article s'intitule « San Francisco n'est plus, récit d'un témoin oculaire ». Jamais dans l'histoire une ville impériale moderne n'a été détruite aussi complètement. Rien n'en subsiste que des souvenirs et une ceinture de maisons d'habitation dans les faubourgs. Son quartier industriel est anéanti. Son quartier résidentiel est anéanti. Les usines et les entrepôts, les grands magasins et les immeubles des journaux, les hôtels et les palaces des nababs, tout cela a disparu. Moins d'une heure après la secousse sismique, la fumée produite par l'incendie de San Francisco faisait une colonne sinistre visible à 150 km. Et pendant 3 jours et 3 nuits, cette colonne sinistre se balança dans le ciel en le rougissant et en enfumant la terre. À 5h15, mercredi matin, se produisit le tremblement de terre. Une minute plus tard, les flammes s'élevaient. Rien ne s'opposait au progrès des flammes. Tous les dispositifs ingénieux d'une ville du XXe siècle avaient été écrasés. Les rues étaient transformées en crêtes et dépressions. Elles étaient obstruées par les débris des murs effondrés. Les rails d'acier du tramway étaient tordus à angle droit. Les installations de téléphone et de télégraphe étaient coupées et les grandes canalisations d'eau étaient rompues. Le mercredi après-midi, en moins de 12 heures, la moitié du cœur de la ville avait disparu. La liste des morts ne sera jamais dressée. Tout ce qui aurait pu rester d'eux a disparu dans les flammes. Le nombre des victimes du tremblement de terre ne sera jamais connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette nuit du mercredi, quand toute la ville s'effondrait et tombait en ruine, fut une nuit calme. Pas de cris ni de gémissements, ni hystérie, ni désordre. J'ai passé la nuit du mercredi à suivre l'avancée des flammes, et pendant toutes ces heures terribles, je n'ai vu personne pris de la moindre panique. À 8 heures, mercredi soir, je traversais Union Square. Le parc était bourré de réfugiés. Par milliers, ils s'étaient couchés sur l'herbe. Les tentes fournies par le gouvernement avaient été dressées, on préparait le dîner, les réfugiés faisaient la queue. À 1h30 du matin, les trois côtés de l'Union Square étaient en flammes. Le grand hôtel San Francisco, embrasé de tous les côtés, lançait des flammes jusqu'au ciel. Union Square était désert. Les troupes, les réfugiés, tout le monde s'était retiré. Il tombait une pluie de cendres. Le lendemain matin, le jour essayait de percer ce suaire de fumée. Une lueur malsaine s'étendait à la surface des choses. Une fois seulement, le soleil traversa le suaire de fumée, rouge sang. Je me faufilais pour aller voir l'hôtel de ville. La plus grande partie de la pierre avait été arrachée du grand dôme, laissant nue la charpente d'acier. Market Street était encombrée jusqu'à une hauteur considérable de débris. Cette partie de la ville était déjà un amas de ruines fumantes. Ici et là, à travers la fumée, se glissaient prudemment à l'ombre de murs branlants des hommes et des femmes faisant de temps en temps leur apparition. C'était comme la réunion d'une poignée de survivants après la fin du monde. À l'heure actuelle, San Francisco est comme le cratère d'un volcan. En 1907, c'est avec un an de retard que les époux London prennent enfin la mer, direction Hawaï et les îles paradisiaques de Polynésie. Rêvant d'aventure depuis son plus jeune âge, l'écrivain baptise son voilier le Snark, en hommage au roman de Lewis Carroll publié en 1876, l'année de naissance de London. Véritable gouffre financier, le Snark révèle de nombreuses avaries. À bord, la tension monte parmi les membres de l'équipage qui s'avère inexpérimenté. Malgré les difficultés, l'auteur respecte son rythme de travail de 1000 mots par jour. Il entreprend la rédaction d'un de ses futurs chefs-d'œuvre, Martin Eden. Après un mois de navigation, Jack et Charmian accostent enchantés à Hawaï. Puis ils mettent le cap vers les îles Marquises, sur les traces d'un autre écrivain aventurier, Melville, qui a vécu sur l'île de Taipi. Mais le paysage qu'il découvre ne ressemble plus aux descriptions exotiques que Jack London a lues dans son enfance. Désenchanté, il fait le constat amer d'une nature pillée par les Blancs et d'une population décimée par la maladie. Voici un extrait de La croisière du Snark, récit de voyage où l'auteur, au contact des contrées sauvages, se fait volontiers ethnologue. Le matin, nous nous éveillâmes dans un paysage féerique. Le Snark reposait dans un paisible port de la baie de Taiohae, au pied d'un vaste amphithéâtre dont les pentes vertigineuses, couvertes de vignes, semblaient monter directement à la mer. Là-haut, à l'ouest, nous distinguâmes, visible à un certain endroit, la ligne fine d'un sentier. « Le sentier par où Melville s'est échappé » criâmes-nous en chœur. Bientôt, nous descendions à terre et louions des chevaux. Pour ne dégourdir les membres, nous enfourchâmes nos bêtes et nous nous enfonçâmes dans la jungle épaisse. Peu après, nous nous arrêtions devant une vénérable idole en buis, immense statue de bois couverte de mousse, auprès de laquelle se disputaient un trafiquant allemand et un capitaine de bateau norvégien. Au milieu des palabres, on eût dit qu'ils commandaient à la statue de se lever et de marcher afin de leur épargner la peine de la transporter eux-mêmes. Soudain, 19 canaques balancèrent l'idole sur une espèce de châssis en planche et la trimballèrent jusqu'au bateau, où, solidement amarrée sous les écoutilles, elle doit en ce moment voyager dans le Pacifique Sud vers le Cap Horn à destination de l'Europe, dernier asile des bonnes vieilles idoles, excepté l'une d'entre elles en particulier qui sourit en grimaçant à côté de moi pendant que j'écris ces lignes. Sauf naufrage, ce vieux masque continuera à ricaner chez moi en Amérique jusqu'à ma mort. De nous deux, c'est lui qui gagnera la partie car il rira le dernier. Le soir, nous assistâmes à un festin où un nommé Tayara Tamari, fils d'un matelot hawaïen et déserteur d'une baleinière, commémorait la mort de sa mère marquisienne. En cet honneur, il avait invité le village tout entier aux agapes. À notre arrivée, nous fûmes subjugués par une jeune indigène assise sur un gros rocher. D'une voix chantante, elle proclama que notre présence rehaussait l'éclat de la fête et répéta le compliment à chacun des nouveaux venus. À peine étions-nous assis qu'elle changea de ton, au grand étonnement des convives. Elle poussa à présent des cris vifs et perçants. Des voix d'hommes lui répondirent et leurs clameurs se muèrent en un chant barbare, louant le sang et la guerre. Ensuite, nous aperçûmes à travers une échappée de feuillage une procession de sauvages complètement nus, à l'exception d'un pagne de couleur chatoyante qui leur saignait les reins. Ils avançaient à pas lents et émettaient des hurlements de triomphe et d'exaltation. Ils tenaient sur leurs épaules des branches d'arbres auxquelles pendaient de mystérieux fardeaux d'un poids considérable, dissimulés à la vue par des feuilles vertes. C'étaient tout simplement des cochons, d'innocents cochons rôtis à la broche. Mais les porteurs les exhibaient selon une ancienne coutume quand, autrefois, leurs ancêtres promenaient le long cochon avant de le servir à table. Or, le long cochon n'est pas un vulgaire cochon, comme on serait tenté de le croire, mais un euphémisme polynésien pour désigner la chair humaine. À tout moment, la procession, le fils du roi en tête, faisait halte pour manifester par des cris tonitruants leur joie de la victoire, leur mépris des ennemis et le désir de les dévorer. Voilà comment Melville assista il y a deux générations à l'exhibition des cadavres des guerriers de la tribu Apar enveloppés dans des feuilles de palmier qu'on transportait dans l'enceinte des bois sacrés. Le cannibalisme est souvent considéré comme une fable par les gens ultra-civilisés, lesquels répugnent à admettre que leurs propres ancêtres sauvages aient pu se livrer à de semblables pratiques. Je n'espère pas avoir la chance en cette époque dégénérée de voir les indigènes manger le long cochon. À la fraîcheur de l'aube, nous partîmes pour la vallée de Tipé sur de petits étalons nerveux piaffants et hennissants. D'un côté de la piste, le paysage monte tout droit, et de l'autre, il descend à pic. Comment cette file de chevaux parvint à se tenir en équilibre au bord du gouffre, voilà un véritable miracle. Enfin, nous arrivâmes en haut de la colline. Tout autour de nous, à perte de vue, se dressaient les contreforts ébréchés des montagnes qui lançaient leur sommet dans les nuées. À nos pieds, le Snark, tel un jouet minuscule, se tenait sur l'eau calme de la baie du contrôleur. 1000 pieds plus bas, la vallée de Tipé se révélait soudain à nos yeux. M'eût-il donné d'entrevoir, l'espace d'un éclair, les jardins du paradis terrestre ? Je ne crois pas que cette vue m'eût ravi davantage, s'exclamait Melville, à l'instant où il aperçut cette vallée pour la première fois. Il vit un jardin, nous un désert. Où étaient donc les centaines d'arbres à pin dont il parle ? Nous descendîmes ensuite une piste en zigzag sous une voûte de feuillage où d'énormes papillons voltaient en silence. Nul sauvage tatoué armé de gournins ou de javelots. À notre approche, nous aperçûmes cependant quelques misérables femmes indigènes à l'air menaçant. C'étaient des lépreuses, et l'homme qui vint vers nous souffrait lui-même d'un horrible éléphantiasis. Tous étaient atteints des poumons. La vallée de Tipi était devenue l'asile de la mort, et la douzaine de survivants de la tribu poussait à grand-peine les derniers soupirs de leur peuple. La vie s'en est allée de ce merveilleux jardin au climat si délicieux. Les Tipéens étaient beaux comme des dieux. Dès que les Blancs eurent apporté sur leur bateau les miasmes de la lèpre et de la tuberculose, les pauvres indigènes furent hélas terrassés par le mal.
Ils parlent de la mort comme tu parles d'un fruit. Ils regardent la mer comme tu regardes un puits. les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise au marquis. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Évoquons en conclusion un autre domaine où Jack London fait figure de pionnier. Après le journalisme, la photographie et l'ethnologie, le cinéma. C'est en 1908, aux îles Salomon, dans la propriété de colons américains, que Jack London découvre pour la première fois le tournage d'un film par une équipe de la société Pathé. Il y joue même un petit rôle. 5 ans plus tard, alors que Hollywood n'existe pas encore, il se lance dans l'adaptation de ses romans pour le cinéma. Une longue complicité le lie à Hobart Bosworth, producteur, réalisateur et acteur, qui va tourner plusieurs films sous le logo Film Jack London. Le Loup des Mers, Martin Eden, Une Odyssée dans le Grand Nord. Le premier film, Le Loup des Mers, sort en salle le 7 décembre 1913, soit 2 mois avant la première apparition sur les écrans d'un certain Charlie Chaplin. Si les films muets sont hélas aujourd'hui perdus, la liste des films tirés de l'œuvre de Jack London est impressionnante. On y trouve de grands noms de réalisateurs comme Victor Fleming, Claude Autant-Lara ou le poète russe Vladimir Mayakovsky. Pour l'écrivain engagé, le cinéma apparaît comme le moyen magique de rétablir une certaine justice sociale. Voici ce qu'il écrit dans le magazine de la Paramount à l'âge de 39 ans, en 1915, 1 an avant son suicide. L'écrivain qui voulait vivre comme une météorite y livre son dernier message d'espoir. Le cinéma abat les barrières de la pauvreté et de l'environnement qui barraient les routes menant à l'éducation et distribue le savoir dans un langage que tout le monde peut comprendre. L'éducation universelle, voilà le message. Le temps et la distance ont été annihilés par le film magique pour rapprocher les peuples du monde. Voyez combien l'homme noir dans sa vie quotidienne nous ressemble beaucoup. Allez à l'aventure à travers les villes de notre pays et sentez les limites primitives de la communauté se rapprocher des hommes que vous voyez à l'image. Regardez, frappé d'horreur, les scènes de guerre et vous devenez un avocat de la paix. Aucun langage ne peut laisser une empreinte aussi vivace sur notre conscience. Les plus grands esprits ont transmis leur message par le livre ou par le théâtre. Le cinéma le déploie sur l'écran où tout le monde peut le lire et le comprendre et le goûter. Les plaisirs du théâtre ne sont plus réservés aux riches. Les quelques sous de l'homme pauvre font déployer devant lui et sa famille les meilleurs drames dans leur forme la plus belle. Pour eux, les acteurs et les actrices réputés marchent et même parlent sur l'écran. Et ainsi, par ce moyen magique, les extrêmes de la société se rapprochent d'un pas. Et voici que se réalise enfin l'inévitable rééquilibrage de la condition humaine.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Olivier Dupré, a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.